Chapitre 67. Callan courut dans les couloirs de pierre noire puis traversa une enfilade de salles à l'atmosphère sépulcrale. Quand elle s'engagea dans un escalier, elle crut que son cœur allait exploser. Elle se pressait ainsi depuis que Djebra lui avait dit avoir aperçu de la lumière dans la forteresse du sorcier. Zed était revenu. L'inquisitrice se souvint de ce qu'on éprouvait en courant avec des cheveux longs. Leur poids, leurs mouvements réguliers en rythme avec chaque foulée, tout cela lui avait été volé. Mais ça n'importait pas. Seul comptait le soulagement de savoir le vieux sorcier de retour. Après l'avoir attendu si longtemps, elle ne pouvait s'empêcher de crier son nom à tue-tête. En entrant dans la salle de lecture, Callan s'immobilisa, haletante. Zed se tenait devant une table couverte de livres et de rouleaux de parchemin. Rien n'avait changé depuis la dernière fois qu'elle était venue, des mois plus tôt. À la lumière des chandelles, l'atmosphère avait quelque chose d'intime. Un colosse aux sourcils en broussailles et au visage parcheminé leva les yeux de la canne sophistiquée qu'il étudiait. Assise dans un coin, Adi tourna la tête vers l'inquisitrice.
« Zed, je suis si contente de vous revoir !»«
Zed ?»
Le sorcier consulta le grand type du regard.
« Zed ?»
L'homme hocha la tête.
« Moi, je préfère Ruben. »«
Zed, j'ai besoin de votre aide !»«
Qui est-ce ?»
demanda Adi.
« Adi, c'est moi, Callan !»«
Callan ?»
La dame des ossements tourna la tête vers le sorcier.
« Tu sais qui c'est ?»«
Une jolie fille aux cheveux courts. Ça se voit, non? Et elle semble nous connaître. »«
Que racontez-vous là ?»
s'écria l'inquisitrice.
« J'ai besoin d'aide. Zed, Richard a des problèmes. Il faut vous en charger. »«
Richard ?»
répéta le vieil homme.
« Je connais ce nom, je crois. »
« Zed, vous êtes devenu fou? Vous me reconnaissez quand même. Il s'agit de Richard. Richard !»«
Richard, ça me dit bien quelque chose, mais... »«
Votre petit-fils, par les esprits du bien, l'avez-vous oublié aussi ?»«
Petit-fils? Il me semble que... Non, ça ne me revient pas. »«
Zed, écoutez-moi. Les sœurs de la lumière sont venues et elles l'ont emmené. »
Les yeux du vieil homme se levèrent lentement et se rivèrent à ceux de Callan.
Les sœurs de la lumière tiennent Richard ?
Oui.
Derrière le sorcier, une lézarde s'ouvrit dans le mur.
Il est parti avec l'une d'elles.
Zed s'appuya à la table et se pencha vers l'inquisitrice.
Impossible. Pour ça, il aurait fallu qu'elle lui mette autour du cou un de leurs fichus colliers, et ça, il ne l'aurait jamais accepté.
Pourtant, il l'a fait, dit Callan.
Elle sentit que ses genoux commençaient à trembler.
Et pourquoi l'aurait-il fait, inquisitrice ?
Rugit Zed.
Parce que,
dit Callan d'une toute petite voix,
je le lui ai ordonné.
Plusieurs bougies fondirent à une vitesse folle, constellant le sol de flaques de cire. Un bras du chandelier s'affaissa soudain comme une plante manquant d'eau. Prudent, le colosse se plaqua contre un mur.
« Tu as fait quoi, inquisitrice ?»
siffla le vieil homme.
Il refusait. Pour le sauver, je lui ai dit d'accepter le collier, afin de me prouver son amour.
Callan vola dans les airs, percuta un mur et s'écroula sur le sol. Quand elle tenta de se relever, une main invisible la souleva et l'envoya de nouveau s'écraser contre le mur. Zed avança et se pencha sur elle.
« Tu as fait ça, Richard ?»«
Vous ne comprenez pas. Il le fallait. Il m'a demandé de vous rejoindre et de tout vous raconter. Par pitié, Zed, acceptez de l'aider. »
Furieux, le sorcier la gifla. Callan retomba et s'écorcha les mains sur les dalles en se réceptionnant. Il la releva d'un seul bras et la propulsa une troisième fois contre le mur.
« Je ne peux rien pour lui, espèce d'idiote. Personne n'a le pouvoir de l'aider. »«
Pourquoi ?» Zed ? Nous ne devons pas l'abandonner. »
Callan leva les bras quand elle vit partir une nouvelle gifle, une défense futile. Le coup porta et sa tête percuta de nouveau la pierre. À un doigt de s'évanouir,
La jeune femme pensa qu'elle n'avait jamais vu un sorcier dans une telle rage. À coup sûr, il allait la tuer pour ce qu'elle avait fait à Richard.
« Idiote, perfide imbécile, stupide traîtresse, plus personne ne peut l'aider !»«
Vous en êtes capable, j'en suis sûr !»«
Non, nul ne peut accéder à lui, pas même moi. Les tours ne me laisseraient pas passer. Richard est à jamais perdu pour nous. Tu m'as pris tout ce qui me restait !»«
Pourquoi serait-il perdu à jamais ?» cria Callan malgré le sang qui coulait de sa bouche. « Il reviendra un jour !»
Pas de notre vivant. Un sort temporel enveloppe le palais des prophètes. Richard y restera pendant près de 300 ans, et nous ne le reverrons jamais. Nous l'avons perdu, te dis-je, petite dinde sans cervelle.
Non, par les esprits du bien, ça ne peut pas être vrai. Nous le reverrons.
Jamais, mère inquisitrice. Grâce à toi, il est hors de notre portée. J'ai perdu mon petit-fils et toi ton amoureux. Dans 3 siècles, quand il reviendra, nos os pourriront au fond de la terre. Tout ça parce que tu l'as forcé, pour te prouver son amour, à remettre un collier.
Zed tourna le dos à Callan qui tomba à genoux.
Non !
Hurla-t-elle en martelant le sol de coups de poing.
Richard, mon Richard, esprit du bien, pourquoi m'avoir infligé ça ?
Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? « Mère inquisitrice ?»
demanda Zed sans se retourner.
« Le conseil m'a condamné pour trahison. Je devais être décapité, et les gens se sont réjouis en entendant la sentence. Ils avaient hâte d'assister au spectacle. Heureusement, je me suis évadé. »«
Priver le peuple de distraction n'est pas gentil !»
fit Zed. Il saisit Callan par ce qu'il lui restait de cheveux et l'attira à travers la pièce.
« Pour te punir, tu seras bel et bien décapité !»«
Zed, non, par pitié, pas ça !»
Le vieil homme utilisa sa magie pour la traîner dans le couloir comme si elle ne pesait rien.
« Demain, pour le festival du solstice d'hiver, le peuple verra ce qu'il désire. La jolie tête de la mère inquisitrice tombera de ses épaules devant une foule en liesse. Je m'en assurerai, oui !» « Le premier sorcier y veillera !»
Callan cessa de protester. Quelle importance après tout. Les esprits du bien l'avaient abandonnée et dépouillée de tout ce qui comptait pour elle. Pire que tout, elle avait condamné Richard à 3 siècles de calvaire, 300 ans avec un collier autour du cou. L'inquisitrice désirait mourir, et le plus vite serait le mieux. Les poings sur les hanches, Richard regardait les nuages noirs que formaient les sortilèges dans la vallée des âmes perdues. Au lever du soleil, zébrés de lumière jaune, ils étaient merveilleux à voir, d'une beauté mortelle. Duchayu lui posa une main sur le bras.
« Mon mari me remplit de fierté aujourd'hui, » dit-elle. « Il nous rend notre terre comme les anciens mots le promettaient. »
« Duchayu, je te l'ai répété 100 fois, je ne suis pas ton mari. Tu as mal interprété les anciens mots. Ils veulent seulement dire que nous devons agir ensemble, et nous n'avons encore rien réalisé. Tu n'aurais pas dû venir avec tous les tiens. J'ignore si ça marchera et nous risquons d'y laisser notre peau. »
La Bakaban Mana lui tapa gentiment le bras.
« Le Karin est là, et rien ne lui est impossible. Il nous rendra notre terre. »
Elle l'abandonna à ses pensées et se mit en route vers le camp.
« Tous les nôtres devaient être présents. C'est leur droit. »
Elle se retourna.
« Partirons-nous bientôt, Kaharin ?»«
Oui, »
répondit distraitement Richard.
« Je vais rejoindre mon peuple. Appelle-moi lorsque tu seras prêt. »
Tous les Bakaban Mana campaient à la lisière de la vallée. Des milliers de tentes avaient poussé sur les collines comme des champignons. Malgré tous ses efforts, le sourcier n'avait pu l'éviter. Au fond, pourquoi s'en faire? S'il se trompait, la déception d'un peuple entier ne pèserait pas sur sa conscience puisqu'il serait mort. Derrière lui, il entendit Warren et Verna approcher.
« Richard, nous pouvons te parler ?»
demanda la taupe.
« Bien sûr, » répondit le sourcier sans se retourner. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Renonçant enfin à sonder les nuages, Richard fit face à son ami qui glissa ses mains dans les manches de sa tunique.
Dans cette posture, il faisait très sorcier aguerri. Et aux yeux de son ami, il incarnait le modèle du bon sorcier. Un homme sage, plein de compassion et bardé de connaissances. Bref, de quoi avoir confiance en l'avenir, s'ils ne mouraient pas tous aujourd'hui.
« Sœur Verna et moi, dit Warren, avons parlé de ce que tu comptes faire après avoir traversé la vallée.
Richard, je connais ton plan, mais tu n'auras pas le temps de le mettre en application. Demain, ce sera le solstice d'hiver. C'est irréalisable. »
Une chose n'est pas infaisable parce que tu ignores comment la faire, mon vieux.
Je ne comprends pas.
Dans quelques heures, tu saisiras. Et vous aussi, sœur Verna.
Si tu le dis, fit Warren en se grattant le nez. Si tu le dis.
Verna n'émit aucun commentaire. Une nouveauté qui déconcerta le sorcier, habitué à la voir monter sur ses grands chevaux quand il jouait les mystérieux. Mais il n'aurait pas parié qu'elle n'en mourrait pas d'envie.
Warren, tu es sûr que la prophétie sur le portail parle de ce solstice d'hiver?
La taupe hocha la tête.
Imaginons qu'il y ait un agent, une boîte d'ordonne ouverte et un os de screen. Ce sont les seuls éléments indispensables pour ouvrir le portail et déchirer le voile.
Oui, mais Darkenral est mort, donc il manque l'agent.
Plus une question angoissée qu'une affirmation, pensa Richard.
Cet agent doit-il être vivant?
Demanda Verna.
Pas obligatoirement,
répondit Warren mal à l'aise.
S'il avait été rappelé dans ce monde, je doute que ce soit possible, mais si ça l'était, ça ferait l'affaire.
Et cet agent fantôme,
s'enquit Richard,
pourrait agir exactement comme s'il était vivant?
Oui et non,
fit Warren de plus en plus inquiet.
Il faudrait un élément supplémentaire. Un esprit ne remplit pas les conditions physiques requises pour déchirer le voile, il lui faudrait un assistant.
En clair, un esprit ne pouvant pas se charger de certaines tâches matérielles, il aurait besoin de bras pour s'en occuper à sa place. Des bras qui auraient une influence physique, comme tu dis, sur notre univers.
Oui, avec de l'aide, un esprit réussirait, mais comment rappeler un agent dans notre monde? À ma connaissance, c'est impossible.
Richard, tu ferais mieux de le lui dire.
Fit Verna. Le sourcier remonta sa chemise et dévoila sa cicatrice.
Quand je l'ai rappelé sans le vouloir, crois-moi, Darkenral m'a marqué, et il a dit être venu pour déchirer le voile.
Si Darkenral est un agent, comme tu l'affirmes, fit Warren, et s'il a un assistant, notre salut ou notre destruction ne tient plus qu'à l'os de Skreen. Nous devons savoir ce qu'il en est.
Sœur Verna,
lança soudain Richard,
accepteriez-vous de m'aider?
Volontiers, mais à quoi?
Lors de notre première leçon en voyage, j'ai choisi de me concentrer sur l'image de mon épée. Mais cette fois-là, j'y ai ajouté un fond. Il était tiré du livre dont je vous ai parlé, le Grimoire des ombres recensées. Quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai été propulsé en Dara, dans le palais du peuple, où sont restées les boîtes d'ordonne. J'ai vu Darkenral. Il me voyait aussi, et il m'a parlé, pour me dire qu'il m'attendait.
« Et ça t'est arrivé d'autres fois ?»
demanda Verna le front plissé.
« Non, ça m'a tellement terrorisé que je n'ai plus utilisé ce fond. Si je m'en sers maintenant, je devrais découvrir ce qui se passe là-bas. »
« Je n'ai jamais entendu parler de ce phénomène, » admit Verna. « Mais il doit avoir un rapport avec la magie d'Orden. Face à toi, j'ai l'habitude d'être surprise. Cela dit, ça peut être réel ou une sorte de rêve. »«
J'aimerais essayer, mais avec votre aide, sinon j'ai peur de ne plus pouvoir revenir. »«
Bien sûr, Richard. »
Verna s'assit en tailleur dans la poussière et tendit les mains.
« Viens. » Je ne te lâcherai pas d'un pouce.
Le sourcier prit place en face d'elle et enroula autour de lui la cape du Muiswis.
Ce vêtement dissimule mon Han. Il empêchera peut-être Ral de me voir.
Richard prit les mains de Verna, se détendit et invoqua l'image de l'épée de vérité sur un fond noir entouré de blanc. Et cela recommença. L'arme,
Le carré noir et le cadre blanc se brouillèrent et disparurent lentement. Une nouvelle fois, le sourcier vit se former devant ses yeux le décor du jardin de la vie dans le palais des râles. À la place des cadavres qu'il avait découverts la première fois, il ne restait plus que des ossements blanchis. À part ça, rien n'avait changé. Darkenral était là, tout de blanc vêtu, mais il ne se tenait pas devant les trois boîtes d'Orden. Debout à la lisière du cercle de sable blanc, celui qui avait disparu dans la vision précédente, il regardait la femme en jupe marron et chemisier blanc agenouillée à ses pieds. Le sourcier approcha et vit qu'elle dessinait des figures géométriques dans le sable étincelant. Certaines rappelèrent au jeune homme celles que Ral avait tracées avant d'ouvrir une des boîtes. Suivant les mouvements de la femme, Richard vit qu'il lui manquait l'auriculaire de la main droite. Au centre du cercle reposait un petit objet rond, un os sculpté. À coup sûr, celui dont lui avait parlé la dame abbesse. Richard eut envie de hurler de rage. À cet instant, Darkenral releva les yeux et les planta dans les siens. Ses lèvres dessinèrent lentement un sourire. Regardait-il vraiment Richard? Le jeune homme n'attendit pas de s'en assurer. Se concentrant, il invoqua de nouveau l'image de l'épée sans le fond qui s'abattit comme une porte sur celle du jardin de la vie. Puis, il ouvrit les yeux.
« Richard, ça va ?» demanda Verna.
« Tu es resté absent une heure. Quand je t'ai senti lutter pour revenir, je t'ai aidé. Qu'est-il arrivé? Qu'as-tu vu ?»«
Une heure ?» répéta le sourcier haletant.
« Darkenral détient l'os de Skryn, et une femme dessine pour lui les sortilèges dans le sable de sorcier. »
« Ne nous affolons pas, » dit Warren. « C'était peut-être une hallucination. »«
Possible, » fit Verna pensive. « À quoi ressemblait la femme ?»«
Environ votre taille, des cheveux bruns jusqu'aux épaules. Hélas, je n'ai pas pu voir son visage.
Mais sa main, il lui manquait le petit doigt de la main droite. »
Warren blêmit et Verna ferma les yeux.
« Quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive ?»
« Sœur Odette, »
soupira Verna.
« C'était sœur Odette. Elle est partie depuis plus de 6 mois, »
confirma Warren.
« Je pensais qu'elle suivait la piste d'un sujet. »«
Maudits soient les esprits !»
jura Richard en se levant.
« Warren, va chercher du chahut et dis-lui que nous partons sur le champ. »
Richard pensait avoir tout le temps qu'il lui fallait. Une erreur. Mais ça pourrait encore coller, à condition de se dépêcher. Du chahut, en transe, se laissait conduire par Richard. L'épée de vérité dans l'autre main, le sourcier aussi évoluait dans un monde qui n'appartenait qu'à lui. Sa colère répondait point pour point à la fureur des nuages noirs. Les sortilèges les encerclaient comme une meute de chiens forçant un cerf, mais ils gardaient leur distance dans l'attente d'une ouverture. Des volutes de lumière jaillissaient des ténèbres et tourbillonnaient autour d'eux, irrésistiblement attirés par l'aura qui enveloppait du chahut. Dès le contact, ses tentacules de pouvoir disparaissaient. La Bakaban Mana absorbait la magie, comme Verna l'avait dit naguère à Richard. Ensemble, la femme esprit et le sourcier devenaient le lien qui, selon les livres de Warren, pouvait assimiler le pouvoir et abattre les tours. À travers la brume et les colonnes de vapeur, Richard vit le premier édifice. Il tira sa compagne vers le mur noir brillant, presque invisible dans les ténèbres ambiantes. De la poussière volta autour d'eux tandis qu'ils couraient vers l'arche qui s'ouvrait dans la muraille. Des sortilèges tentèrent de les arrêter, mais la Bakaban Mana les absorba comme les autres. Richard agissait d'instinct, sans savoir ce qui le poussait en avant ni tenter de s'y opposer. Pour réussir et sauver Kalan, il lui fallait se laisser guider par les étranges forces tapies en lui. S'il avait le don, il saurait quoi faire, comme Nathan le lui avait dit. Et s'il ne l'avait pas, tout était perdu. Du chahut ne sembla pas remarquer le sable noir qui couvrait le sol de la tour. Elle ne prêtait plus attention au monde extérieur, immergée dans le pouvoir que lui avaient transmis les bâtisseurs des tours, ceux-là même qui avaient volé leur terre à ses ancêtres. Jusque-là, elle avait rempli sa part du contrat, protégé Richard. À présent, c'était à lui de s'acquitter de la sienne. Cédant à une impulsion, il serra plus fort la main de sa compagne, leva son épée et la pointa vers la voûte de la tour. Puis, il laissa la colère de la magie le submerger et sentit sa chaleur envahir le calme au centre de son âme qu'il cherchait depuis toujours. Alors, il laissa la fureur remplir le vide. Dans un vacarme assourdissant, des éclairs fusèrent de l'épée, rebondirent d'un mur à l'autre et se perdirent dans les ténèbres au-dessus de leur tête. La lueur courut sur la pierre noire jusqu'à ce que la tour entière brille comme une étoile, ses murs virant lentement au blanc dans la chaleur d'une explosion de lumière. Richard eut le sentiment que ces éclairs le traversaient aussi. Il le remplissait d'un pouvoir qui sortait de son corps à travers l'épée de vérité, toujours pointée sur la voûte. Sans la colère, comprit-il, il n'aurait pas supporté la violence de la force dont il était devenu le vecteur. Des torrents de lumière ruisselèrent des murs et traversèrent le sable noir jusqu'à ce que tout ne soit plus que blancheur aveuglante. Le sable de sorcier blanchit lui aussi, et le monde devint un vortex de flammes et d'éclairs. Soudain, cela cessa. Les éclairs moururent, et le feu s'évanouit comme celui d'une bougie mise sous l'été noir. Dans un silence de mort, Richard vit que les cloisons noires de la tour étaient d'un blanc brillant qui le fit cligner des yeux. Du Chaillu n'était toujours pas sorti de sa transe. Richard la tira en avant pour achever la mission qu'ils étaient tous les deux nés pour accomplir. Dans la tour blanche, quand il leva de nouveau l'épée, il s'attendit à la même réaction que précédemment. Une erreur d'appréciation car le contraire se produisit. Une affaire d'équilibre, comme toujours. L'air vibra si fort que le sourcier redouta de voir sa chair se détacher de ses os. Des éclairs noirs jaillirent vers la voûte, creusant une poche de vide dans la lumière. Comme dans l'autre édifice, Richard sentit le pouvoir monter du plus profond de lui-même. Le serpent de vide courut le long des cloisons. Dans un vacarme de fin du monde, il fora un abîme de néant dans les ténèbres qui dissimulaient la voûte. À cet instant, les ombres qui suintèrent des murs blancs et en dégoulinèrent comme de la vase donnèrent l'impression qu'elles se fondaient dans les profondeurs d'une nuit éternelle. Cette marée obscure atteignit le sol et s'infiltra dans le sable blanc qui vira peu à peu au noir. Richard n'eut même pas l'idée de fuir les féroces tentacules de cette nuit au-delà de la nuit. Quand ils les enveloppèrent, Du Chaillu et lui, il eut le sentiment de plonger dans une mare d'eau glacée. Les yeux fermés, la Bakaban Mana frissonna, le sourcier aussi sentit le froid. À travers la fureur que lui communiquait l'épée de vérité, cette sensation très lointaine réussit surtout à exacerber sa colère. Le monde semblait avoir à jamais disparu dans une nuit d'encre, au point que le souvenir de la lumière paraissait avoir déserté la mémoire du sourcier. Le reptile d'obscurité cessa soudain de creuser son tunnel de vide dans le monde des vivants, comme si on lui avait coupé la tête. Dans le silence revenu, Richard entendit sa respiration haletante et celle de Du Chaillu. La lumière, la vie et la chaleur émergèrent du néant glacial. Dehors, à travers les arches, désormais noires comme le reste de la tour, Richard vit la clarté traverser les nuages de plus en plus fins. Le sol, jadis nu et aride, redevenait verdoyant. Sans se lâcher la main, Du Chaillu et lui vinrent se camper devant l'arche et regardèrent le brouillard se dissiper au-dessus d'un paysage que nul n'avait pu admirer depuis des milliers d'années. Ils sortirent, marchèrent sur l'herbe grasse et se laissèrent caresser par les rayons de soleil. Les tempêtes de sortilège ne faisaient plus rage et les colonnes de brume qu'ils traversaient s'évaporèrent à leur contact. Autour d'eux, dans l'air frais et limpide, la vie se réveillait et bruissait. La vallée s'étendait à perte de vue, semée de verdure et de bosquets tout au long des lacets des cours d'eau. Richard comprit pourquoi les Bakaban Mana s'étaient languis de leur pays pendant des millénaires. Ici, on se sentait chez soi, tout simplement. Un lieu de lumière et d'espoir, gravé au fil des siècles dans le cœur d'un peuple obstinément fidèle à ses racines. Cette oasis de bonheur n'appartenait pas aux Bakaban Mana, pensa Richard. C'était eux, au-delà du temps et de l'espace, qui lui appartenaient.
« Tu as réussi, Kaharin, » dit Duchayu. « Notre terre a émergé du brouillard grâce à toi. »
Dans le lointain, Richard aperçut des silhouettes qui erraient dans cette splendeur retrouvée. Les voyageurs prisonniers des sortilèges depuis d'innombrables années. Parmi ces miraculés hébétés, il allait devoir trouver deux amis à lui. Verna et Warren galopaient vers le sourcier, Bonnie tenue par la bride. Dès qu'ils furent à son niveau, il sauta en selle. Désireuse de l'accompagner, Duchayu tendit la main. À contre-cœur, il la hissa en selle avec lui.
« Richard !» s'exclama Warren. « C'est incroyable ! Comment as-tu fait ça ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée, mon vieux. Mais j'espérais que tu aurais une explication. »
Le sourcier poussa Bonnie vers l'endroit où il se souvenait avoir vu Chase et Rachel lors de son premier passage dans la vallée. Warren et Verna le suivant comme des ombres, il repéra très vite ses amis assis sur la berge d'un étang. Un bras autour des épaules de l'enfant, le garde forestier semblait totalement perdu. Son expression d'habitude sévère oscillait entre l'extase et l'effarement.
« Chase, ça va ?»
cria le sourcier en sautant à terre.
« Richard, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Nous étions à ta recherche et... Bon sang, tu ne dois pas traverser la vallée. Zed a besoin de toi parce que le voile est déchiré. »«
Je sais. »
Richard confia les rênes de Bonnie à Verna et fit rapidement les présentations.
« Mes amis t'expliqueront tout, Chase. »
Il s'agenouilla devant Rachel. La pierre des larmes de couleur ambre pendait à son cou, comme dans son souvenir.
« Rachel, tu te sens bien ?»«
C'était un endroit merveilleux, Richard, »
dit la fillette en clignant des yeux.
« Le nouveau est agréable aussi. Tout ira bien maintenant. »«
Rachel,
c'est Zed qui t'a donné ce pendentif ?»«
Il a dit que je devais le garder jusqu'à ce que tu viennes le prendre. »«
C'est pour ça que je suis là, ma petite chérie. Je peux l'avoir ?»
L'enfant sourit et fit passer la chaîne autour de son cou. Richard l'ouvrit pour récupérer la pierre. Dès qu'elle fut dans sa paume, il sentit sa chaleur et la présence de Zed. La chaîne étant trop petite pour lui, il la rendit à Rachel, lui assura qu'elle la porterait mieux que lui et fixa la pierre des larmes à une lanière de cuir qu'il avait emportée à cette fin. Il la mit à son cou, avec la gielle et le croc d'écarlate. Du coin de l'œil, il regarda le point noir qui grossissait dans le ciel à l'horizon.
« Richard, »
dit Warren, «
après ce que je viens de voir, je te crois capable de tout. Mais tu n'auras pas le temps d'atteindre ta destination dans les délais. Demain, si tu n'es pas là où tu dois être, ce sera la fin du monde. Que vas-tu faire ?»«
Où devons-nous aller, mon époux ?»
demanda Duchayu.
« Nous n'irons nulle part. Toi, tu restes ici avec les tiens. »«
Époux ?»
répéta Chase, redevenant enfin méfiant comme à ses plus beaux jours.
« Elle s'est fichue cette idée dans la tête, mais c'est du délire. »
Dans le ciel, la silhouette rouge se précisait.
« Chase, je suis trop pressé pour t'expliquer. Sir Verna et Warren s'en occuperont. »«
Que comptes-tu faire ?»
demanda Verna, l'air perplexe.
« Warren a raison, le temps te manque. »
Au loin, Écarlate amorçait déjà son piqué. Richard décocha son sac de la selle de Bonnie et le passa à son épaule. Après avoir récupéré son arc et son carquois, il flatta l'encolure de la jument en guise d'au revoir. La femelle dragon était sur le point de se poser.
« J'aurai assez de temps, ma sœur, si je pars tout de suite. »«
Partir comment? Que veux-tu ?»
À cet instant, Écarlate redressa son vol, rasant la terre à une vitesse incroyable.
« Je n'ai qu'une chance d'arriver dans les délais. Voler !»«
Voler ?»
s'exclamèrent en chœur Verna et Warren. Écarlate rugit et tout le monde la vit enfin. Ses énormes ailes battant follement pour la ralentir, elle entra en contact avec le sol et réussit un atterrissage parfait.
« Richard, soupira Verna, tu as de drôles de goûts en matière d'animaux de compagnie.
Les dragons rouges ne sont les animaux de compagnie de personne, ma sœur. Écarlate est une très chère amie à moi. » Le sourcier approcha du reptile volant qui exhala un petit nuage de fumée grise.
« Richard, je suis sacrément content de te revoir. Comme tu m'as appelé avec le croc, je suppose que tu t'es encore fourré dans la mouise. »«
Ça, tu peux le dire, mon ami. Tu m'as manqué, Écarlate. »«
Dommage que j'ai déjà mangé. Mais un voyage m'ouvrira l'appétit. Après, je te dévorerai. »
Richard éclata de rire.
« Où est ton petit ?»«
À la chasse. » Grégory n'est plus si petit que ça. Tu sais qu'il se languit de toi.
J'adorerais le voir. Pour l'instant, je suis trop pressé par le temps.
Richard,
cria du chahut,
je dois t'accompagner comme une bonne épouse est censée le faire.
Le sourcier fit signe à Écarlate de baisser la tête et lui murmura à l'oreille.
Une toute petite flamme, pour l'effrayer sans la blesser.
Quand une langue de feu carbonisa l'herbe à ses pieds, la Bacabane Mana recula en criant d'indignation.
« Du chahut, ton peuple a retrouvé sa terre ancestrale. Tu dois rester près de lui pour le guider. Et je te charge aussi d'une mission. Défendre les tours qui se dressent sur votre territoire. J'ignore si elles sont encore dangereuses, mais le Kaharin ordonne que personne n'y entre. Surveille-les et assure-toi que nul n'en approche. Vivez en paix avec ceux qui ne vous menacent pas. Mais continuez de vous entraîner au combat au cas où on vous attaquerait. »
Du chahut se redressa de toute sa hauteur. Les bandelettes de tissu de sa robe de prière volèrent au vent en même temps que sa crinière noire.
« Le Kaharin parle sagement, » concéda-t-elle. « Je lui obéirai et j'attendrai qu'il revienne près de son peuple et de sa chère épouse. »« Richard, » demanda Verna, « sais-tu où trouver Kalan ?»
« En Aïdinril, elle doit y être puisque la prophétie parle de son peuple. »«
L'heure du choix a sonné, Richard. Où iras-tu ?»«
En Dara, » répondit le jeune homme. Après un court silence approbateur, Verna le serra dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues.
« Et ensuite ?»«
Quand j'aurai arrêté ce qui est en cours au palais du peuple, je filerai en Aïdinril. Prenez garde à vous, mes amis. »
Warren et moi nous occuperons des gens que les sortilèges ont relâchés. Voilà 200 ans que je suis une sœur de la lumière, et mon but a toujours été d'aider les autres. Heureusement, tu m'as ouvert les yeux. Rien ne justifiait de capturer des jeunes gens comme nous l'avons fait. En secourant ces miraculés, j'espère me racheter un peu.
Merci, Richard, dit Warren en donnant l'accolade à son ami.
J'espère te revoir bientôt.
« Essaie d'éviter les aventures, vieux frère. »«
Je viens avec toi, »
lança Chase.
« Non, mon ami, rentre chez toi. Conduis Rachel dans sa nouvelle famille. Emma doit se ronger les sangs. Voilà une éternité qu'elle ne t'a pas vue. Retourne dans ton foyer, Chase. Bientôt, je devrais absolument regagner le mien. »«
Sœur Verna, il faudra agir au sujet des 6 fugitives. Elles voguent vers Terre d'Ouest. » Et les gens là-bas sont incapables de lutter contre la magie. Elles y seront comme un renard dans un poulailler.
Le voyage leur prendra du temps, Richard. Il n'y a pas d'urgence.
Tant mieux. Kalan voudra sûrement que nous célébrions nos noces chez les hommes d'Adobe. Ensuite, je reviendrai vous demander conseil sur la manière de neutraliser ces femmes. Parlez-en à Nathan et à Anna. Nous déciderons d'une stratégie à mon retour.
Sois prudent, dit Warren en glissant les mains dans ses manches. Et je ne parle pas que de ta sécurité. Souviens-toi de ce que Nathan et moi t'avons dit. En utilisant la pierre des larmes, tu as le pouvoir de mettre l'univers entier en danger.
Je ferai de mon mieux. Écarlate se baissa pour que le jeune homme puisse sauter sur ses épaules. Il s'accrocha à des pics à pointe noire et vint se nicher sur la nuque de la femelle dragon.
En route pour Dara, mon ami. Une fois de plus.
Écarlate cracha une gerbe de flamme et décolla en rugissant.